Je vous dois un peu plus de transparence sur la façon dont j'en suis venu à ce type de sujet. En fait, présenter un peu en prologue ma démarche, l'origine de l'intérêt qui a pu me conduire à chercher dans ces questions, puisque je ne suis pas né dans une étable et que je suis bien venu au pâturage par tout un ensemble de problèmes, de problématiques, disons mieux. J'y suis venu par la curiosité de l'étudiant pour un thème qui était comment les communautés villageoises parviennent-elles à exploiter leur finage, l'espace communal, et comment apparaît, comment s'introduit la propriété privée, comment advient l'idée d'une transformation de la communauté d'exploitation, avec éventuellement sa reconfiguration pour former des ententes, toujours contextualisées, de travail éventuellement, mais dans un cadre beaucoup plus individualiste. En suivant cette ligne problématique, donc c'était dans le cadre d'une maîtrise. À la fin de ma maîtrise, à l'époque, vous voyez, c'est avant les dinosaures, avant que n'existent les masters, à la fin de cette maîtrise, ma curiosité s'est portée sur tous ces moments de tension qui, en l'espace de 5 ans à peu près, font basculer de nombreux villages de la France de l'Est, de la Bourgogne en particulier, dans un ordre totalement inédit pour eux, qui est un ordre du privatif. Et y compris les espaces collectifs ne sont plus gérés de manière collective, mais les espaces collectifs sont gérés de manière à dégager des rentes qui seront utilisées par des municipalités pour créer des projets qui serviront le collectif. C'est-à-dire qu'y compris la gestion des espaces collectifs ne peut plus se faire selon la libre volonté de chacun. Mais les produits de ces espaces seront destinés à une caisse commune. Ensuite, je me suis livré à l'exercice des concours de l'enseignement, puisqu'il faut bien vivre à un moment. Et enfin, je suis revenu à la recherche, après ces concours de l'enseignement, en me disant, je vais essayer de creuser pour quelles raisons y a-t-il autant de conflits qui font apparaître les gardes champêtres. C'est-à-dire les gardes champêtres, là où ils existent, sont les révélateurs de tensions beaucoup plus générales qui impliquent des mutations dans le rapport des sociétés à la gestion des espaces. Voilà comment j'en suis venu à l'étude des tensions et des conflits. Maintenant, quelles sources ? Des sources qui sont essentiellement des sources locales que j'ai constamment cherché à articuler avec l'échelle départementale, puisque les préfets et sous-préfets représentent le ministère de l'Intérieur, produisent tout un tas de règlements et contrôlent ceux qui émanent des municipalités. Échelle locale, les municipalités. Il y a 2 pages de photocopie d'une archive qui provient d'un registre des délibérations d'un conseil municipal pour 1822. Source départementale et source nationale. Et l'objet de mon travail a été d'articuler les 3 types de producteurs de sources, les locaux, les administrations départementales et les administrations centrales, sachant que le lien entre tous ces niveaux est un lien qui peut être soit administratif, donc un lien très encadré a priori, ou un lien qui peut être purement rapport de force entre réseaux de notables. Donc j'ai essayé d'articuler ces sources et la nature de ceux qui font circuler l'information d'un niveau à l'autre. Et le tout a fait émerger ce que vous savez certainement par ailleurs, que l'une des plus grandes sources de tensions dans de très nombreux espaces ruraux, indépendamment de toute autre forme de conflit, d'engagement idéologique qui n'existe pas véritablement toujours, l'une des grandes sources de tensions qui mobilise de l'énergie tient à la question de l'accès aux ressources indispensables pour nourrir des animaux. Dans un contexte où la propriété privée, mais la propriété privée pleine et entière, telle que les constituants l'ont établie, définie, transmise à la législation à partir de 1791, cette propriété-là, donc accès aux ressources dans un contexte où cette propriété privée devient la norme même d'organisation de la société française. Et au-delà de son organisation politique, la propriété privée fonde le corps politique pleinement et entièrement. Or, nourrir les animaux, c'est nourrir en fait un bétail dont les déplacements couvrent à peu près tous les espaces, selon des règlements, selon des lois, selon des habitudes. Mais tout cela suscite manifestement de plus en plus de tensions. Et de fait, j'ai rejoint un laboratoire d'études qui s'appelle le Centre d'études sociologiques du droit et des institutions pénales, le CESDIP, qui est une unité mixte de recherche dépendant donc du CNRS, mais relevant du ministère de la Justice, pour disposer d'un environnement intellectuel qui m'apportait des outils pour traiter les sources que je rencontrais. Voyez à peu près, à titre de prologue, voilà mon parcours. Les sources que j'ai utilisées viennent des dépôts départementaux d'archives, des archives nationales. Ce que je vais utiliser aujourd'hui tient en bonne part au centre que je connais le mieux, qui est le centre des archives de Dijon, de la Côte d'Or. Mais je vais également m'appuyer sur des archives nationales qui témoignent du cas de la Meuse, du cas de la Dordogne parfois, et puis du cas de la Corse. Mais il va de soi qu'au gré de mes périples dans les centres d'archives d'un bout à l'autre de la France, j'ai toujours eu sous les yeux, et je termine par là ce prologue, j'ai toujours eu sous les yeux, quand je regardais les archives produites à l'échelle des municipalités, j'ai toujours vu une interrogation sur l'organisation du pâturage, quelle que soit la nature des animaux concernés. Et je me faisais étudiant la remarque de savoir pour quelle raison, alors que partout je trouvais mention de tensions, de difficultés à organiser, d'obligations de réécrire, pour quelle raison j'avais, dans les années 1980-90, si peu de travaux sur ces questions, des tensions, c'est-à-dire de l'accumulation des sources de ressentiment que la société absorbe d'abord parce qu'elle trouve d'autres modalités de rééquilibrage, et parfois, quand des règlements s'imposent violemment, sans laisser de traces, de place au compromis social, la tension débouche sur l'explosion des ressentiments en tout domaine et peut dégénérer dans des conflits très graves. Vous voyez à peu près dans quel sens tout cela est organisé. Je vous propose maintenant de regarder ce que je vous propose comme lecture globale de cette question. Sachant que l'image que vous aviez, cette reproduction d'un tableau qui date du Second Empire, un tableau de Jules Breton sur les glaneuses, avec quelques petits animaux qui sont distincts, ça c'est l'image habituelle que l'on a de relations apaisées. Alors les glaneuses, ce ne sont pas des troupeaux, ce n'est pas du pâturage, mais après tout, les pauvres sont comme les animaux. Et les encadrer, les surveiller à l'occasion de leur déplacement, c'est ça l'idéal de la bonne surveillance. Ce que le Second Empire porte sur les pauvres, on pourrait dire que la société du premier 19e siècle l'imagine pour les animaux en déplacement. Qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes, qu'ils soient sagement surveillés, et ils pourront être ainsi encadrés et déplacés. D'autres tableaux de Breton mettent l'accent, alors ça ne servait qu'à vous rappeler cette atmosphère un peu de doux déplacement des animaux ou des hommes sous la surveillance d'un personnage. Et Breton, Jules Breton, est par ailleurs celui qui peint d'autres tableaux sur le rappel des glaneuses. Et ce rappel des glaneuses fait figurer des glaneuses et des moutons qui les accompagnent en arrière-plan. En fait, tout cela se déplace assez savamment, assez tranquillement. Bon, c'est de la peinture. Breton n'hésitant pas à mettre une pipe dans la bouche du garde-champêtre au milieu d'espaces qui sont encore moissonnés avec de la paille et des chaumes partout. Tout le monde est bien gentil. Cela plaît au pouvoir. Or, le pâturage, c'est tout autre chose. Pendant 50 ans, mais disons pendant 30 ans, en France. D'accord ? Donc cette association, en fait, il faut surveiller le déplacement des hommes comme des moutons. C'est quand même une conscience. On ne laisse personne se déplacer librement dans un espace qui produit des récoltes. Alors venons-en à l'essentiel. Sous le directoire, en l'an 3, en particulier, de nombreuses mesures ont été décrétées par le comité des arts et d'agriculture pour limiter le développement des troupeaux parce que, à l'époque, la nourriture devait prioritairement être dégagée pour les armées et l'alimentation des villes. Donc, sous le directoire, l'enjeu, c'est d'empêcher la mise à disposition des troupeaux de vastes étendues qui seront notamment cultivées en orge, coupées en verre, pour fournir un fourrage à des animaux qui seront engraissés pour le marché urbain. L'idée, c'est que la priorité des priorités est de produire des céréales et que l'élevage ne vient qu'en second, un peu comme un mal nécessaire, toujours et malgré tout. Parce que l'urgence du moment, c'est la guerre, c'est l'incertitude de la tenue des villes. Il y a donc de grandes difficultés. La concurrence supposée entre nourriture des hommes et nourriture des animaux est quelque chose de bien inscrit dans les consciences sous la Révolution française. Or, à la fin de la période révolutionnaire et impériale, beaucoup d'indices suggèrent que les troupeaux se sont largement développés et au début des années 1820, beaucoup de mentions dans les archives prouvent que ces troupeaux deviennent difficiles à nourrir dans de très nombreux villages, sur de très nombreux finages. D'ailleurs, en 1841, donc encore 30 ans plus tard, le comité d'agriculture de la Côte d'Or, excédé par les très nombreux désordres produits par le pâturage, en vient à écrire que la vaine pâture est une espèce de guerre où les moutons jouent le rôle que les Cosaques remplissent dans la guerre véritable. Sachant que la Côte d'Or a été occupée durement par les Cosaques et les Autrichiens en 1814 et 1815. Et ce vœu-là rejoint une série d'autres vœux pour en finir avec ces tolérances de vaine pâture et ces habitudes de faire circuler des animaux un peu sur tous les espaces après la récolte. Bon, en de nombreuses communes, en fait, les tensions sont d'autant plus fortes que, par un effet de la nature, dirais-je, en 1822, la sécheresse est terrible. Le pâturage est grillé partout en France. Et les troupeaux qui s'étaient accrus durant la période de l'Empire sont confrontés à une incapacité à être nourris. Parce que la sécheresse de 1822 a rendu impropre la plupart des terres libérées par les récoltes, qui n'étaient déjà pas très fortes. Les prairies de plateau ont été grillées. La concurrence est alors très forte. Ce n'est pas la première fois que les sécheresses frappent le pays, mais c'est certainement une fois assez remarquable parce qu'elle concerne un pays où les ovins, en particulier, sont vraiment plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été. Alors, en cette matière du pâturage, puisque les sources de désaccords et d'opposition sont très nombreuses, ce que je vous propose de suivre, c'est de mettre à jour la nature véritable de ces tensions, le contexte social dans lequel ces tensions ont pris place, et également de se poser l'ultime question, l'intervention des autorités publiques n'est-elle pas de nature à jeter de l'huile sur le feu, parfois, plus qu'à résorber les tensions autour de la question du pâturage. Et loin d'être un phénomène de micro-histoire et de macro-économie, c'est ce que je vous suggère en conclusion, c'est qu'au fond, la cristallisation, même si le mot n'est pas beau, en tout cas il veut bien dire les choses, sur la question du pâturage a été un des éléments d'enracinement de clivage profond au sein de l'opinion autour de la manière d'envisager la vie collective, sachant que les animaux sont utiles à beaucoup d'individus. Voilà un peu ce que je vous propose. Maintenant, les faits, rien que les faits. D'abord, premier aspect, l'appareil réglementaire qui se densifie à l'égard du pâturage est une des manifestations de l'importance prise par ce secteur et de la nécessité, souvent année après année, des autorités d'intervenir pour que l'activité se passe mieux que l'année précédente. Le fait de rappeler d'année en année des règlements de pâture n'est pas simplement associé au fait que le cycle agricole ramène d'année en année les mêmes types d'activités, c'est aussi la nécessité de mettre bien en tête de ceux qui ont des animaux qu'ils n'ont pas le droit de commettre ce qu'ils ont éventuellement commis l'année précédente. Et les archives des préfectures témoignent également de l'attention, voire de la demande des autorités préfectorales, demande qu'il existe véritablement des arrêtés en fonction desquels des délinquants puissent être punis. Parce que ce qu'il emporte, c'est le respect de la propriété privée. Il faut à tout prix valoriser la propriété privée aux dépens de droits collectifs. La nourriture des troupeaux relève donc de pratiques soumises absolument au respect de cette propriété privée. Et elle repose d'abord sur des prairies naturelles, inégalement présentes à la surface du territoire national. Les exploitants en disposent, bien entendu, personnellement, de ces prairies naturelles. Elles sont ouvertes à l'ensemble de la collectivité si elles ne sont pas closes matériellement. Elles sont ouvertes, du moins après récolte du fourrage, en arrière-saison, à la collectivité si elles n'ont pas une clôture manifeste. Les prairies artificielles, qui sont certainement plus développées qu'on veut bien l'imaginer dans toutes les régions céréalières, dès les années 1810-1820, la luzerne, le trèfle et le sainfoin sont certainement beaucoup plus établies que la littérature de l'époque, loin des villages, ne le dit. Parce qu'en comparant ceux qui se plaignent du manque de fourrage dans des écrits théoriques et la masse des procès en simple police, en justice de paix, parce qu'un tel est entré dans le trèfle de tel autre ou qu'un tel a conduit les animaux dans la luzerne de tel autre, l'accumulation de ces procès tend à démontrer qu'il y a effectivement d'ores et déjà dans les régions de Lyon, de la Côte d'Or, de l'Aube, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, en tout état de cause pour ces départements, déjà des surfaces qui ont été converties en surfaces fourragères. Mais les prairies artificielles, elles ont la caractéristique d'être installées sur des terres qui, par ailleurs, servent la céréaliculture. Et elles ne sont que temporairement retirées de la production céréalière pour produire du fourrage. Autre moyen de nourrir des animaux, la vaine pâture. La vaine pâture, qui est tolérée par la loi de septembre-octobre 1791, là où elle existe, là où elle est fondée sur des titres, là où la coutume la reconnaît de manière immémoriale, et la vaine pâture est d'abord et avant tout reconnue entre habitants d'un même finage. C'est-à-dire que le parcours de commune à commune, lui, a été largement combattu, et partout, il est dénoncé comme une atteinte à la propriété privée en premier, avant d'attenter à la vaine pâture. La vaine pâture concerne les exploitants d'un même finage ou ceux qui disposent d'un bien sur un finage. Le parcours de commune à commune, c'est l'idée qu'un village a le droit d'envoyer ses animaux sur les champs débarrassés de leur récolte du village voisin, parce qu'il y a toujours des particuliers d'un village qui ont des terres à exploiter sur une autre commune. Donc un principe un peu de compensation. Mais cela s'enracinait aussi dans d'anciens titres, droits et privilèges seigneuriaux que la Révolution a abattus. Donc la tolérance pour le parcours n'était pas aussi nette que la tolérance pour la vaine pâture. La vaine pâture étant certainement moins le résultat, aux yeux des habitants de l'époque, d'anciens droits seigneuriaux que la Révolution avait totalement abrogés. Le recours au communal est une autre manière de disposer de nourriture, mais le communal a largement été diminué par les ventes sous la Révolution et par les grandes ventes de 1813, quand l'Empire a besoin de beaucoup d'argent et réalise des ventes contraintes de biens dépendants des communes pour gagner de l'argent qui servira à acheter tout un tas de matériel pour faire la guerre. Les communes sont privées d'une part de leur communal. On imagine qu'elles recevront une rente correspondant à l'argent qu'elles auront apporté au trésor public pour conduire les opérations de guerre. Mais en 1815, manifestement, les communes ont perdu leur communal et ne touchent pas les rentes. Et puis, la loi de septembre-octobre 1791 a surtout reconnu à chaque habitant résidant quelque part le droit de disposer d'une vache, d'un veau, de 6 moutons et de le nourrir sur l'espace de la commune. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que c'est le même espace qui supporte les productions qui peuvent être utilisées selon des droits différents et selon des temps différents. Il n'y a pas seulement espace différent, ressources différentes, il y a aussi une législation qui heurte le principe de la propriété privée et l'idée de la coutume immémoriale, et il y a l'idée d'une autorisation à utiliser un espace dans un temps donné et une interdiction dans un autre temps. Et rien que cet enchevêtrement, échelle temporelle, échelle spatiale, nature même du droit, est de nature, dans des sociétés rurales, à créer de multiples fractures, de multiples incompréhensions. Le deuxième élément problématique, le déplacement des troupeaux. Parce que pour limiter les dégâts qui résultent des déplacements des animaux vers les zones de nourriture, des règlements sont partout adoptés ou, à défaut de règlements, les collectivités s'en remettent aux pratiques dites immémoriales, susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts nouveaux de l'État, notamment en ce qui concerne la gestion des espaces forestiers. Il y a donc là une intervention des sociétés sur l'organisation des déplacements, mais là encore, il y a une source de tension avec de nouvelles obligations. J'attire votre attention sur la rareté des chemins ruraux, un peu partout. À titre personnel, je trouve qu'il y a quand même peu d'études sur cette création des chemins ruraux dans les espaces ruraux, que les sentes et les sentiers sont bien présents, mais que le suivi des déplacements réels des individus ou des animaux est assez compliqué à l'échelle des finages. Et les archives, de la France de l'Est, laissent entendre que c'est surtout la Troisième République qui soutient la création d'un tissu de chemins ruraux au sein des finages, pas les chemins de grande communication, ni les chemins tels que les lois tiers les envisagent en 1831 ou 1836. Cela signifie qu'il faut, pour atteindre un lieu, obligatoirement traverser des parcelles quand elles ne sont pas closes. Or, la question de la clôture est aussi une question importante. Et là encore, toutes les régions de France ne subissent pas cette question de la même manière. Donc, rareté des chemins ruraux. Obligatoirement, vous conduisez des animaux de mars à octobre à travers un espace bien tentant, parce que du mois de mars jusqu'au mois de juillet, pour atteindre une contrée qui est ouverte au pâturage, il faut quand même promener des animaux à côté de récoltes qui sont en train d'apparaître ou de récoltes qui paraissent bien tendres pour la dent. Et voilà, vous tentez le troupeau qui doit être conduit avec une surveillance un petit peu plus serrée. La structure du foncier, je n'insiste pas, vous voyez l'imbrication d'exploitants. Parce qu'à la rigueur, que le parcellaire soit très imbriqué, cela n'a pas beaucoup d'impact si toutes les parcelles sont exploitées par le même exploitant. Mais ce qui compte, c'est la répartition des terres effectivement cultivées et exploitées plus que le parcellaire en lui-même. Vous observez une planche cadastrale, vous vous dites, voilà un lanieré extrêmement prononcé, mais si vous avez la possibilité de comparer le lanieré aux efforts des exploitants, vous parvenez à vous rendre compte que vers 1810-1820 déjà, beaucoup d'exploitants déploient des stratégies pour essayer de cultiver des parcelles qui sont proches les unes des autres. Mais par ailleurs, ce n'est pas toujours leur intérêt. Et comprenons bien ces gens qui vivent dans un temps où le climat continue de jouer un rôle, la météo a toujours un rôle très important, et concentrer à l'excès dans des mêmes ensembles parcellaires la culture, c'est prendre le risque que la culture soit ravagée par une même grêle, un même orage. À peser deux mots, répartir ces cultures sur tout un finage, ou les concentrer et prendre le risque de toutes les perdre, il faut peut-être mieux le moindre, la répartition des cultures sur le finage. Ce qui va de pair ensuite avec l'idée de créer des contrées, on les appelle ainsi en France de l'Est, les contrées, dans lesquelles se concentrent des mêmes masses de cultures, mais une masse de cultures peut être d'orge dans une contrée au sud d'un finage et être d'orge dans une autre contrée au nord d'un finage. Simplement, il y aura deux grands ensembles qui seront en même nature. Bon, donc cette imbrication du foncier a quand même un impact, c'est que cela engendre la dissémination des lieux du parcours ou de la pâture au sein d'un espace communal. Pensons encore à quelque chose que les justices de paix m'ont mis sous les yeux, c'est en réalité ces déplacements des marchands et des troupeaux des marchands. Il n'y a pas simplement les animaux des habitants. Il y a aussi, pour les villages et les finages situés sur la ligne de déplacement de marchands qui viennent prendre les bœufs ou alors les veaux, les jeunes veaux qui vont être envoyés sur le marché parisien, par exemple, ou ces moutons qui sont vendus de plus en plus nombreux dans la région de la France de l'Est dans les années 1810-1820. Certaines têtes, certains béliers atteignant parfois 50 francs le bélier en 1830, ce qui est une somme quand même très importante. Mais pensez que la France de cette Côte d'Or et de Lyon a été l'un des lieux d'expérimentation ou d'introduction du mérinos par Daubenton, et que les bergeries ont été singulièrement améliorées par des efforts en zootechnie. Beaucoup de marchands viennent s'approvisionner pour avoir des béliers, mais également pour trouver de la viande dans ces régions, et déplacent leurs troupeaux. Eh bien, le long des déplacements, il y a de très nombreux dégâts qui sont commis. De fait, ces déplacements rendent nécessaires de très nombreux règlements et rendent surtout nécessaire une surveillance importante. Dans les régions pastorales de montagne, peut-être que la problématique vous paraît différente, parce que les exploitants envoient leurs troupeaux dans des pâturages d'altitude considérés comme des biens collectifs. Mais là, ils sont en concurrence directe avec la nouvelle manière de penser le bien collectif que l'État central développe. Et notamment dans les régions où les forêts sont abondantes, cela introduit de profondes tensions entre des villages qui estiment que les pâturages d'altitude sont leurs biens et l'État qui entend utiliser les ressources d'altitude, notamment quand elles sont forestières. Et puis, je déclinerai le cas corse où les déplacements des troupeaux s'inscrivent dans une autre dimension, à savoir que les villages, c'est-à-dire la montagne, les villages de montagne disposent très fréquemment de deux lieux de pâturage, le lieu de l'altitude, le temps de la belle saison, et l'épacage de bord de mer, le temps de la mauvaise saison. Or, les packages de bord de mer font l'objet d'une conquête houleuse de la part des villages. Et Ajaccio, la ville d'Ajaccio, est en guerre avec les villages des environs, en guerre depuis le XVe siècle, mais une guerre qui s'approfondit au XIXe siècle, qui devient terrible. Les Ajacciens étant considérés par les villageois comme des descendants des Génois, qui ont installé le préside en 1491 et qui, pour vivre, ont multiplié les actions dans les terres basses notamment en y envoyant leurs troupeaux, tandis que ces terres basses sont censées appartenir, dans la conscience locale, aux habitants des villages. À tel point que dans les années 1850, des communes issues des villages d'altitude sont établies au bord de mer pour contrer tout développement d'autres lieux, d'autres localités de bord de mer. Donc il y a une conflictualité de village en village, mais qui s'enracine comme un effet boule de neige sur des conflits qui sont beaucoup plus anciens. Alors maintenant, les acteurs de la tenue du système, et puis nous ferons exploser le tout d'ici quelques minutes. Eh bien, chargé d'assurer la mise en œuvre des lois, le ministère de l'Intérieur est peut-être le grand organisateur général de cette question du pâturage. Il a été, ce ministère, consolidé sous l'Empire. Et de fait, il n'a jamais cessé de rogner des attributions au ministère des Finances et au ministère de la Justice. Et c'est peut-être le grand vainqueur du premier tiers du XIXe siècle. Il est parvenu à prendre en charge quantité de services et à imposer l'autorité du préfet sur les autres représentants de l'État, notamment en ce qui concerne les domaines, sur les conservateurs des forêts, les préfets ayant réussi à l'emporter à de nombreuses occasions contre les conservateurs des domaines, donc ceux qui ont la charge des forêts. En 1821-1822, les préfectures exigent que soient rédigés un petit peu partout, dans tous les départements, des règlements pour définir clairement ce que le pâturage peut tolérer. Jusqu'à quand, jusqu'à quel point peut-on tolérer une atteinte à la propriété privée, sachant que les lois sont respectueuses des coutumes immémoriales, le ministère de l'Intérieur a une exigence, rédiger partout des règlements de pâture et de veine pâture, pour y inclure les coutumes immémoriales respectées, mais pour prendre en compte la nécessité de la propriété privée. 1821, l'obligation est faite. 1822, elle est renouvelée. Et cela tombe d'autant mieux que 1822, sécheresse oblige, a fait émerger quantité de conflits. Le document que je vous ai proposé est un document qui témoigne, archives municipales de Quincy-le-Vicomte. Vous avez là, pour le 27 décembre 1822, un extrait de registre des délibérations qui porte le type de règlement assez fréquent, émanant des communes. Alors, ce règlement est destiné à la sous-préfecture pour être approuvé, pour ensuite être appliqué. Nul village n'ayant la possibilité d'appliquer le règlement qu'il a envie d'appliquer sur son simple bon vouloir. Et à l'intérieur de ce texte que vous pourrez décrypter, il y a en apparence quelque chose qui va de soi, mais en réalité, tout a fait l'objet de profondes et violentes discussions. Quelle quantité de bétail accepter à veine pâture? S'il faut prendre pour référence la quantité de terre possédée ou exploitée par chacun, cela introduit déjà un débat. Manifestement, dans cette décision de cette commune, les propriétaires ont estimé, les propriétaires membres du conseil municipal, ont estimé qu'il fallait un bœuf ou une vache ou deux genisses, c'est-à-dire génisses, par chaque hectare, 34 hares de terre ou 3 moutons par hectare, ou pour les prés, 6 bêtes à cornes ou 6 chevaux par hectare. Le chiffre, à dire vrai, est souvent proche de commune en commune, mais tout ensuite dépend de ce que la commune possède comme troupeau, des intentions de chacun sur l'amélioration des animaux, sur la quantité de nourriture qu'il peut être possible de dégager pour passer la période hivernale. Et puis, il y a la grosse interrogation, quelle est la surface de référence pour calculer le nombre d'animaux? Je vous prends l'exemple le plus simple. Toutes les terres ouvertes, non closes, et là on passe comme ça aux tensions sur nos ressources, toutes les terres non closes doivent être prises en compte dans le calcul du nombre d'animaux qu'un propriétaire peut envoyer à veine pâture. Mais dans ces terres non closes, il y a des terres que la loi soustrait à la veine pâture, ce sont celles qui sont plantées en prairie artificielle. Alors c'est quand même fabuleux. Le propriétaire le plus engagé dans la culture des prairies artificielles dispose a priori de la plus grande quantité de fourrage pour nourrir ses animaux. Mais dans les règlements de veine pâture, il aura la faculté de compter dans la surface de référence lui donnant droit à mise au troupeau commun de ses animaux, il aura droit de compter la surface plantée en prairie artificielle sur laquelle le troupeau commun n'aura pas le droit d'aller pâturer. Et alors, ces types de règlements en viennent assez rapidement à permettre à celui qui a le plus de ressources d'envoyer le plus d'animaux sur des surfaces qui se réduisent et qui seraient bien utiles à ceux qui ont le moins de ressources. Voilà, l'explosion, elle est déjà là. Et en fait, les règlements de 1822 sont dans toute la Côte d'Or, dans toute l'Yonne, dans l'Aube, dans la Moselle. Vous me direz, je me raccroche souvent à ceux-là. Oui, mais ces départements sont particulièrement sensibles à ces questions en l'absence de clôture définitive. Les règlements de 1822 sont partout attaqués. Alors, regardons nos tensions. Voilà, vous pourrez lire cet exemple de règlement. Pour bien insister sur l'essentiel, l'accroissement des troupeaux dans le premier tiers du siècle, vous voyez, c'est très maladroit comme plan, mais enfin, les indices sont très nombreux. Jusqu'à 2% en plus chaque année pour le troupeau ovin en Côte d'Or, de 1800, les statistiques, je les ai réalisées, de 1820 à 1862, c'est-à-dire juste au moment où entre vraiment en vigueur la loi sur le libre-échange avec l'Angleterre qui permet de mettre en concurrence les producteurs français et les producteurs anglais et des dominions. Donc de 1820 globalement à 1862, le troupeau ovin s'est accru de 2% chaque année. Et il en faut des ressources en pâturage pour nourrir des troupeaux croissants de moutons, d'autant que le troupeau des bovins en Côte d'Or s'est accru de près de 30% et que l'essentiel du déclic est opéré dans les années 1825-1835, dans l'accroissement des têtes d'animaux. Après viendra l'amélioration de la qualité de l'animal en lui-même. L'accroissement, il est le produit de l'accroissement démographique, très fort dans les campagnes jusque vers 1825-30 en Côte d'Or, mais dans de nombreuses régions françaises jusque vers 1850. Et cet accroissement démographique oblige à trouver de nouvelles ressources, parce que l'espace, lui, n'est pas extensible. Soit on fait produire plus à l'espace, vous le savez, soit on trouve le moyen de disposer autrement des ressources. Et beaucoup, dans la France de l'Est, beaucoup de petits se sont dirigés vers des métiers du tissage, notamment de la laine. L'industrie lainière part en flèche et s'appuie sur la hausse des troupeaux de moutons. Il y a donc un équilibre très instable, de plus en plus de tisserands, qui absorbent de plus en plus de quantités de laine, dans un contexte démographique qui est quand même tendu. C'est un des facteurs à prendre en compte. Seulement, la hausse du troupeau des animaux produit, lui, de véritables problèmes dans l'effinage. Les délits se sont multipliés autour du pâturage, faisant apparaître des tensions sociales extrêmement prononcé. Alors, type de délit, c'est le fait d'avoir conduit son animal sur une terre qui était ensemencée en prairie artificielle, y compris après la coupe de la prairie artificielle, parce que théoriquement, il faut préserver le semis de ces herbes qui couvrent et qui doivent produire du fourrage. S'il s'agit d'une plante qui n'est pas annuelle, il est entendu qu'il faut la protéger du foulage par le troupeau pour lui permettre de demeurer une année suivante pour produire à nouveau ce qui sera indispensable à la nourriture de l'ensemble des troupeaux. Il y a également de multiples délits parce que beaucoup de propriétaires ont multiplié les haies temporaires, les haies sèches, faites de ronces tissées, de marceaux, on les appelle les marceaux. Ce sont ces haies sèches qui sont disposées pour protéger un espace de l'élevage, hein, du parcours, durant le temps de la pousse et de la récolte. La récolte réalisée, les marceaux peuvent être retirés. Seulement, dans les villages, beaucoup ont estimé que ces haies sèches étaient des haies qui n'avaient rien à faire sur le paysage et qui ont poussé les animaux dans les champs enclos de haies sèches. C'est-à-dire que la nature de la haie, elle-même, elle peut créer problème. Et puis, vous avez encore une autre source de tension qui est la mise en réserve. Et ça, c'est une clôture qui est simplement symbolique et réglementaire. Une commune décide de retirer de là-dedans des animaux, des espaces, pour protéger les ressources. Cela peut être, dans la perspective d'une mauvaise année, il y aura toujours une zone qui pourra produire du fourrage. Dans la perspective également de bien étaler l'utilisation du fourrage, au mieux, on dirige les animaux vers telle contrée ou vers telle autre contrée. Mais les réserves, les mises en réserve sont à la source de quantité de problèmes parce que beaucoup ne saisissent pas la raison profonde. Il y a de l'herbe bonne à utiliser dans un endroit. Pour quelle raison n'aurait-on pas le droit de se rendre dans cette zone-là ? J'ajoute par ailleurs que les conflits peuvent être des conflits entre villages très forts. Je ne vous en cite qu'un très rapidement pour tenir le temps. Ce conflit entre un village de fond de vallée, Senaï, et un village de plateau, Saint-Just, depuis 1730, avait été tranché par la justice royale le fait que le village de plateau avait le droit de venir abreuver ses animaux dans la rivière au fond de la vallée. Pour cela, le village avait le droit de traverser une contrée herbageuse et humide relevant de la communauté du village de fond de vallée, sur une certaine bande de terre correspondant à la part, à la proportion de ce que les éleveurs du village de plateau possédaient en terre sur le finage de la commune de Fonde-Vallée. C'est un joli compromis. Nous avons des terres sur votre finage, nous avons donc le droit à parcours ou à veine pâture, et nous viendrons simplement l'exercer sur la zone que nous traversons pour aller boire dans la rivière. Le village de Senaï a décidé au XIXe siècle de mettre en réserve systématiquement la zone qui était traversée par le village du haut de plateau. Et de fait, les habitants du village du plateau sont verbalisés à tour de bras par les gardes du village de fond de vallée, mais le village de fond de vallée le fait exprès pour mettre un terme à la pratique de l'abreuvoir dans la rivière. Et le fait avec l'intention de récupérer le pâturage qui est ici au cœur de la tension. Bon, qui intervient ? J'avais préparé un transparent. Qui intervient, si on peut le mettre peut-être simplement le second ? Qui intervient ? Alors, voilà une carte que j'ai réalisée par arrondissement, en couplant les données, donc par arrondissement, pour 1844, en conjuguant dans la totalité les 16 petits critères. La présence des gendarmes dans un arrondissement par habitant, cela est fait par habitant. Présence des gendarmes et des gardes forestiers dépendants de l'État, et d'un autre côté, présence des gardes champêtres, communaux et particuliers. Plus vous avez une couleur qui va vers le seul bleu, quand vous êtes dans le bleu, vous êtes dans la dominante gendarme, et de moins en moins de gardes relevant des communes. Quand vous allez vers le rouge, vous avez là une dominante force des communes pour conserver ou préserver l'espace et pour veiller à ce que le pâturage et tous les règlements de police soient bien respectés. Et quand vous allez vers les tirets ou les points, bien entendu, c'est que l'encadrement est très lâche, quel que soit celui qui l'emporte. Et dans le blanc, on est là dans des niveaux de très faible encadrement par des autorités policières, c'est-à-dire qui ne sont pas sociales. Parce que, par exemple, dans la région de la Dordogne, ce sont des autorités sociales qui vont peser extrêmement pour tenir l'ordre dans les villages. Bon, vous voyez que, globalement, dans une ligne qui irait, disons, de Cherbourg jusqu'à Marseille, se trouve une concentration très forte des hommes chargés de faire respecter les règlements de pâturage. Et surtout des forces de police très présentes qui relèvent de l'État, en ce qui concerne les domaines, forêts, et ce qui concerne la gendarmerie. J'attire votre attention sur la Corse, qui est l'un des départements les plus encadrés par les forces de police dès le XIXe siècle. Et sur les montagnes pyrénéennes, ou alors les Alpes, où les autorités sont très présentes. Dans les statistiques, ce sont les gardes des forêts qui viennent créer une vraie force locale. Alors voilà qui est chargé de surveiller. Le problème, c'est que les conflits ne cessent de se multiplier entre des petits qui ont le sentiment d'être dépossédés de leurs droits immémoriaux et des agronomes qui ne sont pas forcément des gros, mais des gens qui ont perçu tout l'intérêt qu'il y a à limiter à eux seuls l'usage de leur exploitation pour pouvoir exploiter plus librement, assoler, transformer les modes d'exploitation. Et quand l'État intervient, allez, troisième, et je termine là, quand l'État intervient, d'abord l'État rappelle, comment intervient-il ? Il intervient souvent dans les conflits locaux à la demande des parties en conflit. Parce que quand une municipalité ne parvient pas à imposer le règlement, ne parvient pas à défendre le pâturage tel qu'elle voudrait l'organiser, elle est obligée de recourir en fait à l'administration préfectorale et en disant « il y a des délinquants dans la commune, ils sont très nombreux et ça ne marche pas » et le préfet mène une enquête, repère celui qui est le meneur du groupe qui refuse de se soumettre au règlement pour respecter la propriété privée. Et puis dans ce cas-là, c'est l'occasion de rappeler, 1, la propriété privée l'emporte sur toute autre chose. 2, si vous n'avez pas les moyens de vivre dans votre village, bien vous faites autre chose. Voilà, c'est un peu sommaire, mais c'est cela. Le deuxième élément, c'est que les politiques publiques elles-mêmes, elles ont considérablement fait s'envoler les tensions. Quand en Corse, en 1819, le préfet est tout heureux de présenter un plan de privatisation des terres, privatisation, obligation de parquer les animaux, le préfet ne sait pas qu'il est en train de mettre le doigt dans un engrenage terrible. Il veut par ailleurs interdire l'écobuage qui permet de préparer la repousse, vous le savez, des herbes pour le nouveau pâturage. Et en 1819, il prend prétexte d'un incendie gigantesque qui a ravagé 100 km² de forêt dans le sud, 200 km² de forêt aux portes d'Ajaccio, 200 autres km² de forêt près de Calvi, pour dire... On interdit l'écobuage, on parque les animaux, on oblige les bergers à transformer leurs pratiques. Conclusion, en 1820, les maires qui se sont engagés dans cette politique d'appliquer la circulaire du préfet, les maires voient leur pâture partir en feu et le cycle de la vengeance se développe. Mais l'État voulait préserver les grandes forêts de Corse pour utiliser les bois pour l'industrie de la marine dans ce premier tiers du siècle, avant les navires avec des coques en acier ou en fer. Il y avait encore l'idée de reconstruire notre présence maritime méditerranéenne en utilisant les produits forestiers de la Corse. De la même manière, l'encadrement dans les Pyrénées a été en garde particulier, a été très fort, et on peut dire que c'est l'État qui a en partie mis le feu aux poudres en suscitant des résistances par la politique forestière. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre parti là-dedans ? Ce n'est pas l'objet. Et le deuxième élément, c'est que l'État a balancé. Le développement de la sidérurgie fait s'envoler le besoin en charbon de bois. Le développement de nouvelles activités industrielles mobilise les ressources forestières comme jamais. En France, jusque vers 1870, nous produisons du charbon, d'abord avec du charbon, du fer et de la fonte avec du charbon de bois. Eh bien, le choix est vite fait. Il faudra encadrer le pâturage dans les forêts et il faudra voir l'interdire, sauf cas de sécheresse exceptionnelle pour aller chercher des feuilles. Et il faudra préférer recourir à d'autres modalités que les comités d'agriculture locaux vont chercher à développer, que les comices vont chercher à encourager, de meilleures plantes dans le fourrage. Mais il n'en reste pas moins qu'aux yeux de beaucoup, c'est contre l'État qu'il faudra se positionner, comme le disait Jean-François Soulet, sur une société contre l'État également dans les Pyrénées. Alors, Tout cela a débouché, bien entendu, sur des clivages, et nombre de fois, vous lirez dans les sources les abus, les désordres, voire les rouges, les partageux, et au fil du premier tiers du siècle s'opère un glissement. Ceux qui se livrent au pâturage selon les anciennes normes, ce sont les partageux, les partisans du désordre, les partisans des abus et les rouges. Et en 1848, cela donnera tôt fait, en fait, l'identification de ceux qui sont dangereux du point de vue des démocrates socialistes. Après 1851, peut-être y a-t-il un apaisement de ces tensions, mais il faudrait chercher l'apaisement du côté de la moindre pression sur les ressources dans les campagnes, dans un contexte où les villes absorberont beaucoup de ceux qui ne peuvent plus vivre dans les campagnes, où l'essentiel des nouveaux règlements a été appliqué dans les années 1850. De fait, voilà, j'arrive à la conclusion. Peut-être faudrait-il considérer le pâturage du premier tiers du XIXe siècle, ce que j'ai fait là maladroitement, mais comme un instrument de déstabilisation, comme un moment, la croissance des besoins pour le pâturage est un moment de réinterrogation au quotidien du fonctionnement des solidarités locales. Je vous donne un dernier exemple qui me tient à cœur. C'est le meurtre d'Alain de Monéis en 1870. Il écrivait en 1867, Alain de Monéis, c'est un jeune noble du village de Beaussac, à côté de Hautefaille, assassiné en 1870, le 16 août, dont le cadavre a été brûlé par les habitants du village. Et à l'occasion de ce meurtre, la procédure a prétendu que les meurtriers avaient enduit de graisse coulante du corps du pain pour se lier dans le meurtre. Alain de Monéis, jeune noble, en 1867, écrit un petit texte en disant, dans les annales de la Société d'agriculture de Dordogne, et il dit « Les jolies vallées avec leurs bordures ombragées et les abords qui sont très verts plaisent peut-être aux poètes, mais je ne suis pas de ces gens-là. Moi, ce que je veux, c'est être un engraisseur de bœufs. Et il faut donc transformer les vallées humides pour en faire des lieux de pâture saine pour des bons bœufs qui viennent d'Alsace avec des bouviers alsaciens qui ne sont pas aussi stupides que nos métayers locaux qui, eux, ne s'en sortiront jamais. » Bon, 1870, la sécheresse portera atteinte. La violence n'a donc pas disparu pour raison de pâturage, vous voyez. Voilà, merci.